L'événement qui a marqué en France le début du XVIe siècle, c'est le Concordat signé en 1517 entre le pape Léon X et le roi de France François Ier. Ce concordat, ce traité, mettait fin à la pragmatique sanction, c'est-à-dire à ce code de prétention de l'Église gallicane, de l'Église de France, la prétention de se passer de Rome dans les questions disciplinaires concernant l'Église, ce code de prétention de l'Église gallicane que les papes considéraient comme une menace constante de schisme. Désormais, la nomination des évêques est enlevée au chapitre cathédraux chanoine. Elle se fait entre le roi et le pape, ce dernier nommant celui que le roi lui désigne. Le pape ne pouvait que se réjouir d'avoir désormais plus qu'un droit de regard sur les diocèses français. Mais le fait de dépendre également du roi allait souvent se révéler catastrophique pour le diocèse. Le roi usera en effet de son droit pour désigner surtout des personnages de confiance en vue du service de sa politique. Il était difficile au pape d'être bien renseigné sur les candidats qu'on lui présentait et encore plus de s'opposer à la volonté du roi. Venu en général d'ailleurs et souvent absent de son diocèse pour le service du roi, l'évêque demeurait pratiquement un étranger pour ses diocésains. C'est ce qu'on pourra constater à Bayonne tout au long du XVIe siècle. La première nomination sous le nouveau régime fut celle d'Hector de Rochefort d'Ailly. Les registres du Vatican en gardent la trace, et nous savons ainsi que Hector de Rochefort d'Ailly était auvergnat du diocèse de Saint-Flour. Il devait certainement sa mitre à Louise de Savoie, la mère de François Ier et régente du royaume en l'absence de son fils, parti guerroyer en Italie. Sitôt ordonné évêque en 1519, Hector de Rochefort fut envoyé par la régente en ambassade à Venise. On ne sait rien de son épiscopat, sinon qu'il ne vint probablement jamais à Bayonne, se contentant de percevoir, bien sûr, les revenus de ce qu'on appelait la manse épiscopale. En 1524, Hector de Rochefort a un successeur en la personne de Jean du Bellay. Celui-ci était cousin de Joachim du Bellay, l'un des membres de la Pléiade et auteur de la Défense et Illustration de la langue française. Est-il jamais venu à Bayonne prendre au moins contact avec son diocèse? On peut en douter. Il semble avoir été plus soucieux de belles lettres et de diplomatie que de pastorale. Il fut avec Guillaume Budet à l'origine de la fondation du Collège de France à Paris. En 1526, 2 ans après sa nomination d'évêque, il faisait partie de l'ambassade envoyée en Angleterre pour obtenir la participation d'Henri VIII à la Ligue de Cognac contre Charles Quint. Quelque temps plus tard, à la suite du sac de Rome, le 6 mai 1527, quand il s'agira d'obtenir l'alliance du roi d'Angleterre pour libérer le pape Clément VII, prisonnier au château Saint-Ange, Jean du Bellay va se rendre encore en Angleterre. Au moment où Henri VIII menaçait de rompre avec le pape Clément VII parce que ce dernier refusait de reconnaître la nullité du mariage du roi, Jean du Bellay se trouvera mêlé aux négociations. En 1532, il est nommé évêque de Paris. Paris était à l'époque un simple évêché. Il succédait là-bas à l'oncle de celui qui allait le remplacer à Bayonne. Sa carrière ecclésiastique le mènera à Rome, où il recevra le chapeau de cardinal. Il mourra là-bas en 1560. Étienne Poncher, successeur de Jean du Bellay, avait deux oncles qui avaient été successivement évêques de Paris. Le nouvel évêque de Bayonne, nommé à 24 ans, n'était ni un homme de lettres, ni un diplomate, mais un de ses évêques, et il en avait un exemple dans sa famille, soucieux de réformer le clergé et d'aider les fidèles dans les voies de l'Évangile. Un de ses contemporains rappelle sa vertu étonnante, sa conduite parfaite, son érudition singulière, sa souveraine prudence dans les affaires. C'était sans doute chose assez rare à cette époque pour être ainsi souligné. Sitôt nommé à Bayonne, il va convoquer un synode diocésain et à la suite publier des statuts synodaux en 1533. Il eut le souci de procurer aux prêtres un bréviaire qu'il fit imprimer en 1542 et un missel d'autel en 1543. Il fut nommé archevêque de Tours en 1551 et mourut l'année suivante à l'âge de 44 ans. En 1551, Jean des Montiers de Fraisse devient évêque de Bayonne. Il s'agit de nouveau d'un diplomate que le roi Henri II a voulu promouvoir pour le service de l'État. Si Hector de Rochefort s'occupait des relations avec Venise, Jean du Bellay avec l'Angleterre, Jean des Montiers, lui, se trouve chargé d'ambassade, surtout en Allemagne, dont il maîtrisait parfaitement la langue. Il visitera souvent ce pays, ce qui faisait dire à un chroniqueur qu'il ne vint jamais à Bayonne, étant toujours employé aux affaires du royaume. On peut cependant affirmer qu'il fit, en 1556, au moins une apparition à Bayonne, où il s'efforça de lutter contre les envahissements de la religion réformée. Il est à Bayonne encore en 1558, et après un court séjour dans sa ville épiscopale, il se retira pratiquement dans la demeure qu'il s'était fait bâtir près de Limoges. Il était à Paris quand, en 1566, le pape Pie V mit sous la tutelle de l'évêque de Pampelune les archiprêtrés bayonnais de Haute-Navarre. En 1569, il se trouvait encore dans la capitale où Catherine de Médicis l'avait appelé. Il mourut cette même année. De difficiles tractations lui avaient permis de céder l'évêché de Bayonne à son vicaire général, Jean de Sociondeau. Avec la nomination de ce dernier, on semblait renouer avec la tradition ancienne. Jean de Sociondeau était en effet né à Asquin. Vicaire général du diocèse avec Jean des Montiers, il devient évêque de Bayonne au moment où des bouleversements touchent le diocèse sur le plan politique et sur le plan religieux, avec l'expansion du protestantisme sous la férule de la reine Jeanne d'Albret, en particulier en Basse-Navarre. Malgré ses démarches, il ne pourra pas obtenir la restitution des archiprêtrés de Haute-Navarre. Il meurt à Espelette le 23 novembre 1578, quelques semaines après la fin et le succès des travaux de détournement de la Dour par l'ingénieur Louis de Foix à Bayonne. En 1579, le roi Henri III désigne Jacques Maury, un rotulier, comme évêque de Bayonne. Originaire de la région de Toulouse, il se trouvait à Paris à sa nomination et il va y prolonger son séjour. C'est par lettre qu'il transmet aux chanoines ses directives, ou plutôt son programme pastoral concernant en particulier la réforme du clergé et la création d'un séminaire. Mais les membres du corps de ville ne se contentaient pas de correspondance. Le 26 février 1585, 5 ans après sa nomination, ils se plaignent qu'ils n'ont pas encore vu leur évêque à Bayonne et ils menacent de saisir ses revenus s'il ne paraît pas dans les 3 mois. ils devront attendre encore 9 mois pour le voir arriver. Jacques Maury avait un caractère difficile. Les responsables municipaux s'en aperçurent, en particulier à propos de questions d'orthodoxie de la foi. Ils vont devoir s'adresser au roi pour dénoncer les déportements de l'évêque et publier 2 arrêts pour l'obliger à résidence, car il avait tendance à séjourner et à s'attarder dans sa région natale. Il mourut le 15 janvier 1593. Nous nous étendrons davantage la prochaine fois sur le synode de 1533 et les premiers statuts qui furent publiés au diocèse de Bayonne.